avec les auteurs de Blind Dog Rhapsody au Salon du Livre de Paris 2014. Bonjour.
Bonjour Tiffaine, bonjour Xavier.
Bonjour, bonjour.
Alors je vais commencer par demander qui a eu l'idée de Blind Dog Rhapsody.
Donc c'est moi, c'est voilà. Si tu attends un petit développement peut-être, oui. Non, en fait j'ai écrit le premier tome de Blind Dog en 2010, après la longue série de commandes pour Delcourt qui étaient des collections complètes, surtout 7, La Grande Évasion, et puis l'album chez Dargaud aussi, W2.2. Et donc c'était des boulots qui demandaient beaucoup de recherche, de documentation, c'était des travaux assez sérieux. J'avais envie de revenir à quelque chose de totalement détendu et sans aucune documentation surtout, et simplement retrouver des sentiments d'ado comme mes premiers écrits en fait, juste faire plaisir sur un sujet débile et même je me demande, enfin, c'était vraiment pour reprendre goût à un scénario simple et sans appréhension. Sans... À un moment, je me suis même dit, je vais l'écrire pour moi, pour me faire plaisir. Et voilà. Ça a plu à David et on se connaissait déjà avec Guillaume puisqu'on avait un projet de zombies en pleine vague, en pleine explosion des zombies, que ce soit Walking Dead ou au cinéma ou jeux vidéo, qu'on avait laissé tomber parce qu'on avait l'impression d'être la dernière roue du carrosse. Puis je lui ai présenté le scénario, ça lui a plu et voilà.
Et comment on accepte une idée aussi folle que ça?
Bah en fait, à la base, il m'a envoyé le scénario pour avoir mon avis de lecteur. À la base, tu me l'as pas proposé et en fait, je suis répondu au bout de 3-4 jours avec 3 planches et quelques croquis. Mais non, ouais, tombé amoureux des personnages, je commençais à m'éclater un peu dans le dessin cartoon, qui n'était pas ma maison graphique première, et c'était le bon moyen pour s'y frotter, quoi, en fait. Puis, ouais, non, c'était le coup de foot pour les personnages, quoi, enfin, c'est BBB, maintenant.
Et c'est pas trop dur de délirer une case sur deux?
Ah bah non, justement, non, c'est là que c'est bon, on va dire, parce que je m'attape à ma table de travail, c'est que du malheur. C'est les faire jouer ensemble, c'est la source, quoi. Ouais, c'est là que je m'éclate.
Et est-ce que vous avez rajouté des blagues graphiques?
Non, pas tant que ça, je crois pas.
Un petit peu en fond de case, ce qui faisait pas partie déjà des dialogues. Des fois, Redex s'amuse à dessiner des petits enfants qui tirent sur la jupe de May ou ce genre de trucs. C'est juste sur les plans larges ou.
Ouais, mais il n'y en a pas trop.
Ouais, parce qu'il y avait déjà tellement de blagues pourries et tellement d'absurdités dans le scénario qu'il fallait pas trop en rajouter non plus. Mais...
Ouais, on avait déjà de quoi faire en fait.
Des adaptations de mise en scène peut-être?
Non, pas tant que ça. J'ai plutôt suivi le scénario sur quasiment tous les points. Hein. Ouais, à part une ou deux cases rajoutées en scène d'action, mais parce que je suis peut-être un peu plus du manga que lui, donc j'ai quand même une tendance au surdécoupage. Mais non, de toute façon, non, ça reste très très mineur et ça va juste être l'histoire d'un insert, quoi.
C'est qui avait fait le découpage?
C'est moi. C'est normalement, ça fait partie de mon boulot, donc j'ai essayé de le faire correctement. Non, c'est vrai qu'il y a des scénaristes qui font un scénario, un scénariste, une manière d'écrire. Enfin, on le dit souvent, il n'y a pas deux scénarios qui se ressemblent. Donc voilà, moi je présente des dossiers découpés avec déjà le nombre de pages, le nombre de cases. Mais après, sur les interprétations purement de mise en scène, je laisse beaucoup de liberté aux futurs artistes avec lesquels je vais travailler pour que justement ils n'aient pas l'impression d'être bridés par une vision compartimentée, déjà emboîtée, déjà totalitaire. Non, non, au contraire, c'est ça le plaisir de la collaboration, c'est l'échange d'idées, de vision de cadrage, voilà.
Au niveau du, on va dire, character design, c'était aussi très très planifié.
Ça, par contre, ils étaient déjà décrits tels quels dans le scénario, donc il y avait des particularités physiques qui jouaient beaucoup sur leur caractère, on va dire, et donc ça c'était obligé. Et après, ça a été juste des ajustements avec le style de Guillaume, mais que je connaissais déjà, donc tout s'est bien passé, quoi.
Il y a eu le Blind Dog, fallait trouver le juste milieu pour qu'il soit à la fois débile, rigolo, et que certains moments il reprenne un regard beaucoup plus sérieux et qu'il fasse un petit peu dangereux. Donc là, fallait trouver le design qui pouvait marier les deux.
Maintenant, on a trouvé un raccourci parce que quand on en parle entre nous, on avait la chance, en fait, quand on a proposé notre premier dossier, on se connaissait pas et on s'est rendu compte qu'on habitait à 5 minutes l'un de l'autre. C'est très pratique dans ce métier, c'est assez rare. Et quand on discutait ensemble du Blind Dog, on disait, ouais, il sera en mode badass motherfucker. Maintenant, dans le scénar du tome 2 et du tome 3, je m'emmerdais plus à le décrire. Je mettais BAMF et il savait très bien quelle attitude qu'il fallait lui coller, quoi.
Au fur et à mesure, quand même, oui.
Et justement, le fait d'avoir un personnage dont on ne voit pas les yeux, qui est quand même la partie la plus expressive du visage, comment on fait pour travailler ça? Ça demande beaucoup de réflexion, d'éventuellement faire des photos soi-même
Bah, vu que c'est du cartoon, non, on pouvait pas partir dans la référence. Après, si on regarde le tome 1, en fait, à la base, son bandeau est plus droit. Sur ses yeux, c'est une bande droite. Et en fait, je me suis rendu compte que si je le déformais pour lui donner la forme des yeux, justement, ça le rendait plus expressif. Parce que sinon, j'avais que les sourcils pour le faire jouer. Et vu quand même on est dans le cartoon, faut qu'il vive, faut qu'il soit expressif. C'est un peu la base, surtout pour de l'humour. Alors, vous remarquerez que le bandeau, au fur et à mesure, est pas forcément réaliste, mais prend la forme des yeux. Mais à partir de là, c'était bon. Au début, j'avoue, j'ai un peu galéré. Parce que quand on dit, on verra pas les yeux, l'inverse, je veux bien, mais pas les yeux, c'est compliqué.
Alors, comment dire ça sans spoiler la fin? En fait, la partie qu'on ne voit jamais du visage du sale bâtard infirme, c'est justement ses yeux. Mais il y a une révélation à la fin qui fait que c'est uniquement la seule chose qu'on voit de lui, c'est ses yeux. Et j'aimais bien ce côté un peu super-héros. Du coup, il a une identité civile, et puis quand il se transforme, la seule chose qu'on voit pas de lui, c'est la seule chose qu'on voit de lui. Et c'était marrant de jouer sur cette opposition.
Au niveau du choix du format, c'est un format comics, est-ce que c'était pour avoir un nombre de pages conséquent, parce que ça justifie le nombre de pages? Parce que au niveau de la narration, c'est une parodie de manga, c'est péchu, c'est cartoonesque, mais c'est pas vraiment du comics, donc ça fait bizarre d'avoir ce format-là.
On a un format à l'image de notre héros, c'est-à-dire un sale bâtard. Bon, on espère que ça dérangera pas les futurs lecteurs. Mais oui, c'est étrange. Des Français qui rendent hommage au film de sabre et au manga en format comics, qui n'est pas vraiment un format comics, parce qu'il est un petit peu plus grand qu'un badass, par exemple. Oui, c'est... On rentre dans aucune boîte, quoi. C'est peut-être pas plus mal.
Je l'ai reçu comme ça, le scénario, donc à partir de là, moi, je fais mon boulot. J'ai plus qu'à dessiner. Oui,
À l'origine, on devait être dans la collection Comics Fabric qu'a inauguré Badass, et après Super World et Le Cercle, enfin la collection Comics Fabric, mais en fait c'était une décision éditoriale du côté de Delcourt de favoriser les histoires de super-héros dans Comics Fabric, et plus tout ce qu'on peut faire en comics, donc se concentrer sur les super-héros, et c'est pour ça qu'on est passé dans le format actuel.
Votre Kraken, il sort d'où ?
Bah, graphiquement, je peux pas mentir, moi c'est un peu une frustration parce que je suis un gros fan pour dessiner des monstres, et là j'étais pris par le temps à ce moment-là du 1, du coup j'ai dû le sortir comme il venait. J'aurais bien aimé le travailler peut-être un petit peu plus dans les détails, mais en même temps il est efficace comme il est, donc tant mieux. Mais
il est moche et repoussant, mais en même temps un peu attachant.
Bah c'est très cartoon, du coup je pouvais pas, j'ai bien fait attention à ça parce que à la base j'en ai très réaliste comme je disais, et les monstres j'ai tendance à partir vraiment dans le détail, dans la matière, et là fallait pas que je reparte dans ces travers-là qui peuvent être un automatisme. Fallait rester en cartoonesque, assez, pas schématique, mais aller à l'essentiel. Donc du coup, en plus, il a une tête toute ronde, donc... Bon, mignon, j'irais pas forcément danser avec lui non plus, mais... Il fait pas peur, on va dire. Enfin, juste ce qu'il faut.
Un mot quand même sur la jeune fille. C'était important, vraiment, qu'elle ait ce physique-là?
Oui, forcément. Ça fait partie de l'hommage au manga, voilà, ou de la cruche à gros seins. Et alors, c'est un truc... Moi, j'aime pas trop jouer sur... Je freine toujours mes dessinateurs sur la profusion de nanas à poil, parce que c'est un truc qui m'emmerde un peu. Si justement, mais quand c'est bien fait, quand par exemple dans Badass les posters de femmes nues servent la narration, c'est pas juste pour foutre des nanas à poil. Et je trouve que c'est un truc qui m'a toujours emmerdé dans la BD européenne, c'est d'avoir des nanas à poil pour rien, quoi. Si c'est pas un élément narratif, pourquoi? Donc voilà, là on pouvait alors May n'est jamais à poil, désolé de vous décevoir en avance. Bon, on aperçoit quelques jolies créatures dénudées un moment, mais là ça faisait partie des habitudes du méchant de l'histoire de se baigner dans des piscines de créatures dénudées, voilà. Mais non, moi je freine vachement les dessinateurs là-dessus, parce que s'il n'y a pas d'intérêt narratif, il n'y a pas d'intérêt tout court. On n'est pas là pour faire du cul gratuit s'il n'y a pas d'intérêt, quoi.
Non, puis elle n'est pas sursexualisée dans la façon de dessiner, elle a des formes très avantageuses, mais je veux dire, on n'en joue pas plus que ça par les cadrages, et on voulait qu'elle reste quand même entre guillemets chaste, enfin, pas à tomber dans le cliché du manga avec les seins qui partent dans tous les sens, qui se déforment, où là on commence à sexualiser le personnage. Et Mai, non, du coup, fallait qu'elle soit sexy, mais pas sexualisée. Fallait pas qu'elle se transforme en objet de désir. En plus, sinon, casser le côté comique du personnage.
Ça permettait de faire des blagues bon enfant qui allaient avec l'ambiance stupide et absurde de l'histoire, mais rien de... Enfin, c'est au 4e, 5e, 6e, 7e degré. C'est absolument pas misogyne dans l'âme. Hein. C'est vraiment... pour déconner. Et comme je vous dis, moi, c'est un truc sur les autres projets où, justement, je suis totalement contre. Donc, j'espère que personne sera offusqué, parce que c'est vraiment pas l'intention, quoi.
Le héros est quand même plus débile qu'elle. Donc, à partir de là... on a une bonne caution, j'ai envie de dire. C'est quand même elle souvent qui le recadre et qui le prend pour un débile. Donc à partir de là, c'est pas la cruche de service.
Est-ce que vous connaissez la fin de l'histoire? Ou est-ce que le scénariste... Ah oui, si, le scénariste a lâché le morceau.
Ouais, j'ai reçu le scénario du 3 il y a une semaine. Il était tout tremblotant pour attendre ma réponse, qui malheureusement a tardé alors que je l'avais lu dès que je l'ai reçu. Mais oui, non, ça y est, j'ai enfin le fin mot de l'histoire. Mais j'avais déjà des gros doutes. Mais non, moi j'aime bien.
Ça vaut mieux.
Vous pouvez rappeler en combien de tomes c'est?
3 tomes. Oui, j'ai terminé le 3e tome la semaine dernière et je suis très content parce que les personnages, vous savez, moi je travaille un peu, donc pour répondre à la question de base, non, je connaissais pas la fin. J'avais une image forte que je voulais avoir à la fin et c'est la seule chose que j'avais en tête, comme badass, comme ce flash de la première page qui vous guide après, ou bien connaître les personnages et après vous les laisser travailler. Et sur ce 3e tome, et ben, ils étaient présents, ils étaient drôles à souhait et débiles à souhait et violents à souhait. Je pense qu'on n'a pas, j'ai pas loupé mon rendez-vous avec eux. Je suis sûr que Guillaume loupera pas le sien. Donc voilà, on a notre arc et voilà, 3 tomes.
Date de sortie, plus ou moins.
On a juste des périodes pour l'instant. Ouais. Ce serait pour la rentrée le tome 2 et ce serait pour la même période qu'en mars, avril, je pense, comme pour le tome 1, mais l'année prochaine, le dernier.
Tome 2 à la rentrée et le 3e dans un an.
La sortie du tome 1 donc, est très récente. Comment le public du Salon du Livre a accueilli Blind Dog Rhapsody? Est-ce qu'ils sont venus en découvrant l'ouvrage sur le stand, en vous connaissant et puis en venant voir, découvrant un nouvel ouvrage, ou ils avaient déjà connaissance de l'ouvrage et ils venaient absolument... pour en discuter.
On a eu les deux cas de figure comme d'habitude. Enfin, j'ai envie de dire comme d'habitude, ça m'a surpris la dernière fois au Festival d'Orléans, Saint-Denis-en-Val. Je salue tous les bénévoles de Saint-Denis-en-Val d'ailleurs qui ont fait un super boulot et je les embrasse. Avec Bruno Bessadi, il y a des gens qui viennent spécialement déjà pour passer un week-end en famille lors d'un festival. Et en fait, c'est l'occasion. Vous êtes là, donc l'occasion fait que on va s'intéresser à ce qu'ils font puisqu'ils sont là, on peut avoir une dédicace, donc on achète un album sans trop savoir où on va et puis on en parle avec les auteurs j'ignorais, mais il y a beaucoup d'albums qui sont achetés comme ça en fait, c'est le fait que vous veniez qui crée l'occasion. Et puis l'inverse, c'est des gens qui ont lu notre travail qui sont enthousiastes et qui viennent exprès. Ça se passe comme ça quand on vient en couple. Mais c'est aussi très touchant pour moi qui ne suis que scénariste. Lorsque des gens viennent avec cette détective ou le casse, moi je fais qu'un petit griffonnage et ils peuvent pas repartir avec une petite partie du talent de comme Guillaume ou comme Bruno. C'est vraiment touchant quoi.
Quelle est la demande la plus délirante que vous ayez eue en dédicace?
Pour l'instant, on me demande quand même pas mal maille, étrangement.
Il faut préciser que c'est la première dédicace de Guillaume, donc.
Pour l'instant, il n'y a pas eu une pléthore, mais oui, pour l'instant, Maï a l'air de revenir assez souvent, étrangement. On ne pouvait pas trop s'y attendre.
Mais t'as pas eu de demande, genre dessiner ma grand-mère ?
Non, pour l'instant, non, on a eu les 3 personnages principaux. On reste dans le classique pour l'instant.
Si on vous permettait d'avoir un des 5 véhicules que je vais vous citer, lequel est-ce que vous prenez? Vous avez le choix entre Flash McQueen, le Van Scooby-Doo, la Batmobile, Kit ou la DeLorean?
Alors j'aurais dit Batmobile tout de suite dès qu'elle a été dit, mais la DeLorean ça peut être sympathique quand même dans le principe. Ouais, je dirais la DeLorean pour les possibilités.
Vu le choix des possibilités, vu tout ce qu'on peut faire avec une Batmobile, vu tout ce qu'on peut faire avec la DeLorean, je vais prendre évidemment le Van Scooby-Doo.
Tu veux rien ajouter?
Non, merci beaucoup d'être venu et puis... on espère évidemment que cette absurdité débile plaira aux lecteurs qui aiment l'absurde et le débile. Voilà.
Tout pareil, il a dit comme je pensais, mais en mieux.
Merci.
Merci à vous.